Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, est une vaste synthèse collective consacrée aux formes historiques de l'esclavage, de la préhistoire au monde contemporain. Conçu pour un public non spécialiste autant que pour les lecteurs déjà informés, le volume rassemble les apports de nombreux historiens, anthropologues et juristes issus de plusieurs pays. Son ambition ne consiste pas à produire un récit unique, il met en regard des sociétés, des périodes et des espaces très différents, de l'Inde ancienne aux Amériques coloniales, de la Chine des Han à l'Afrique contemporaine. Cette comparaison sert à définir des continuités sans effacer les différences majeures entre systèmes de dépendance. Le livre place ainsi l'esclavage au centre de l'histoire mondiale et non dans une marge du passé. Il accorde une attention décisive à la traite transatlantique et à l'esclavage colonial, dont la violence et les logiques raciales ne sont pas relativisées. L'ouvrage propose donc un instrument de compréhension historique, critique et civique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, faire de l'esclavage une question centrale pour l'histoire mondiale. Le premier apport du livre est de refuser une vision qui isolerait l'esclavage dans quelques civilisations anciennes ou dans le seul espace atlantique. En suivant les formes de mise en servitude sur la très longue durée et dans de nombreuses régions, il montre que l'esclavage a participé à la formation de sociétés, de pouvoirs politiques et de circuits économiques très divers. Cette extension du regard ne signifie pas que tous les cas se valent. Elle oblige plutôt à poser des questions comparables qui peuvent être réduites en esclavage, par quels moyens juridiques ou militaires, quelles tâches lui sont imposées, et comment sa condition est-elle justifiée. Une telle méthode permet de déplacer le lecteur entre des mondes habituellement étudiés séparément. Elle évite que l'histoire européenne ou américaine serve de normes implicites pour interpréter toutes les expériences. Le volume souligne également que les sociétés esclavagistes ne constituent pas un bloc homogène. Les usages domestiques, militaires, productifs, administratifs ou sexuels de la captivité peuvent varier fortement selon les époques. Mettre ces réalités en relation aide à comprendre que l'esclavage est à la fois une institution de domination durable et un ensemble de pratiques historiquement situées. Le livre fait ainsi de sa diversité même un objet de connaissance. Deuxièmement, la comparaison comme méthode de distinction et non de relativisation, la démarche comparatiste constitue le principe organisateur de cette somme. Comparer ne revient pas à aplanir les écarts ni à dissoudre les responsabilités historiques dans une abstraction universelle. Le livre emploie la comparaison pour rendre plus visibles les mécanismes propres à chaque système, notamment les rapports entre statut juridique, violence, travail et pouvoir. Dans cette perspective, l'esclavage colonial des Amériques, issu de la traite transatlantique, apparaît avec une netteté accrue. Son inscription dans des empires coloniaux, son ampleur, la construction durable de catégories raciales et son rôle économique lui confèrent une configuration historique singulière. Le cadre mondial permet donc de mieux éclairer cette singularité plutôt que de la banaliser. Cette précaution méthodologique est essentielle dans un sujet traversé par des enjeux mémoriels et politiques. Elle évite deux simplifications opposées, faire de la traite atlantique le seul phénomène pertinent, ou prétendre que la présence de l'esclavage dans de nombreuses sociétés atténuerait sa gravité particulière. Les différentes contributions invitent au contraire à identifier les ressemblances de structures tout en examinant les conditions concrètes qui transforment la dépendance en un ordre social spécifique. Le lecteur reçoit ainsi des repères pour discuter les analogies historiques avec précision et prudence. Troisièmement, la non-appartenance à soi comme fil directeur des systèmes esclavagistes pour étudier des configurations très éloignées. Le volume retient un critère fondamental: l'esclave ne se possède pas lui-même. Cette idée de propriété ou de captation de la personne par autrui donne un point de départ plus solide que des équivalences vagues entre toute forme de pauvreté, de travail forcé ou de dépendance. Elle permet de distinguer l'esclavage de situations qui peuvent être extrêmement coercitives sans recouvrir exactement le même statut. Le livre invite ainsi à prendre au sérieux les institutions, les droits reconnus ou refusés aux personnes asservies, ainsi que les pratiques sociales qui organisent leur disponibilité pour un maître, une famille, une autorité ou un marché. Ce fil directeur ne réduit pas les individus à leur statut. Il aide au contraire à mesurer la profondeur de la dépossession-contrôle du travail, de la mobilité, de la parenté, de la transmission des biens et parfois du corps lui-même. La diversité des sociétés étudiées rappelle que la propriété humaine peut être encadrée de manière variable, mais que son noyau demeure une négation d'autonomie. Cette définition sert aussi à éviter les anachronismes, plutôt que de projeter des catégories contemporaines sur chaque dépendance ancienne. Elle fournit un outil analytique pour examiner les ressemblances et les limites des comparaisons. Quatrièmement, empire, colonisation et race dans la compréhension de la traite atlantique. Le livre accorde une place décisive aux conditions impériales et coloniales qui ont structuré la traite transatlantique et l'esclavage dans les Amériques. Cette attention empêche de traiter l'esclavage comme une institution abstraite, indépendante des conquêtes, des États et des économies de plantation. Dans le cadre atlantique, la mise en servitude a été liée à l'expansion européenne, à la circulation forcée de populations africaines et à la production de richesses coloniales. Elle a aussi contribué à installer des classements raciaux dont les effets ont largement survécu aux abolitions. La comparaison mondiale est ici utile parce qu'elle fait ressortir les combinaisons particulières entre appropriation des personnes, domination impériale et ordre de la race. Le volume ne présente donc pas l'esclavage colonial comme une simple répétition de formes antiques ou médiévales. Il examine ce qui le rapproche de systèmes antérieurs, mais aussi ce qui le rend historiquement distinct. Cette orientation répond à un enjeu important pour la société française, où la connaissance du passé esclavagiste et colonial a longtemps été insuffisamment intégrée aux récits nationaux. En replaçant la traite et les colonies dans une histoire mondiale, le livre relie mémoire, recherche et analyse des héritages sociaux sans confondre travail historique et jugement immédiat. En dernier lieu, une somme collective qui relie recherche savante. Mémoire publique est présent, par son ampleur et par la pluralité de ses contributeurs, les mondes de l'esclavage relèvent moins du manuel linéaire que de la synthèse collective. Cette forme permet de mobiliser des compétences spécialisées sur des aires culturelles et des périodes qui exigent des savoirs distincts. Elle offre au lecteur une cartographie intellectuelle étendue, tout en lui demandant de passer entre des contributions dont les objets et les méthodes peuvent différer. Cette densité est une force, elle évite les explications globales trop simples et restitue la complexité des sources, des institutions et des débats de définition. Elle peut aussi rendre la lecture plus exigeante que celle d'une introduction brève. Le livre paraît dans un contexte de renforcement des débats publics français autour de la mémoire de l'esclavage, notamment après la loi Taubira. Son intérêt ne réside pas dans la fourniture de réponses toutes faites aux controverses actuelles. Il montre plutôt comment le savoir historique peut clarifier les catégories, documenter les situations et rendre perceptibles les liens entre passé et présent. La connaissance devient alors une ressource critique, elle donne les moyens de reconnaître les héritages sans enfermer les sociétés dans une histoire figée. Cette articulation entre érudition internationale et enjeux civiques distingue fortement le projet. En conclusion, les mondes de l'esclavage s'adressent aux lecteurs qui cherchent une compréhension rigoureuse et mondiale de l'esclavage. Au-delà des récits centrés sur une seule période ou une seule ère géographique, il sera particulièrement utile aux étudiants, enseignants, bibliothécaires et citoyens désireux de situer la traite atlantique dans un cadre historique plus vaste sans en diminuer la singularité. Les lecteurs déjà familiers de l'histoire coloniale y trouveront des points de comparaison avec autres sociétés. Les non-spécialistes y gagneront des critères plus précis pour distinguer propriété humaine, dépendance, travail contraint et domination impériale. La lecture exige du temps, car la forme collective et la variété des terrains empêchent une progression aussi continue que dans un essai individuel. En contrepartie, cette composition limite les généralisations rapides et donne accès à une pluralité de savoirs spécialisés. Face aux ouvrages qui se concentrent exclusivement sur l'esclavage antique, sur les plantations américaines ou sur les débats mémoriels nationaux, cette somme se distingue par son échelle mondiale et sa méthode comparative. Sa spécificité tient surtout à son équilibre, elle met en évidence la variété des esclavages tout en maintenant au premier plan la violence exceptionnelle de la traite transatlantique, de la colonisation et de l'ordre racial qui les a accompagnés. Le livre fournit ainsi moins une leçon close qu'un cadre solide pour lire les histoires croisées de la domination, des empires et des abolitions. Si vous souhaitez soutenir Cotectif, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.